Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Après-demain dimanche, quand les cloches retentiront pour attirer les fidèles à l'église, il est certain que la messe aura un goût différent. Certains curés en feront peut-être le sujet de leur homélie, d'autres iront peut-être jusqu'au sermon, et de très nombreux fidèles auront l'esprit occupé par ce choc révélé cette semaine avec le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église commis par les religieux, des prêtres et des laïcs, des attouchements, des viols sur des enfants sous emprise. Alors comment tout cela a-t-il pu se produire? Pourquoi n'apprendre qu'aujourd'hui l'ampleur de ce péché majeur qui est de toucher un enfant? Et maintenant, que faut-il faire? Pardonner? Indemniser? Changer les règles de l'Église? Comment l'Église doit-elle assumer ses responsabilités? C'est le débat du jour sur RFI.
RFI.
Bonsoir Astrid Kapten.
Bonsoir.
Professeur de droit canonique à l'université de Fribourg en Suisse, d'où vous êtes en ligne. Vous êtes l'un des 22 membres justement de cette commission appelée CIAS. Bonsoir François Deveau.
Bonsoir.
Qui aviez fondé l'association La Parole Libérée, figure donc de la libération de la parole des victimes de violences sexuelles de la part de prêtres et de religieux. Votre combat a d'ailleurs été raconté dans le film de François Ozon intitulé Grâce à Dieu. Dans ce studio avec moi, Père Hugues de Voilemont, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire général et le porte-parole de la Conférence des évêques de France. Et puis nous sommes en ligne avec Christine Pedotti, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous dirigez la rédaction de la revue Témoignages Chrétiens et vous avez publié un livre intitulé « Qu'avez-vous fait de Jésus ?» aux éditions Albin Michel. D'abord, ces chiffres. Le rapport évalue à 216 000, avec une marge de plus ou moins 50 000, le nombre de personnes ayant fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles pendant leur enfance de la part de clercs ou de religieux catholiques en France de 1950 à 2020. Ce nombre de victimes grimpe à 330 000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans des institutions de l'Église, les aumôneries, les écoles catholiques et les mouvements de jeunesse. Le pape a exprimé sa honte cette semaine. Quelle a été votre première réaction à l'annonce de cela? Les uns, les autres. Tout d'abord, vous, peut-être, François Deveau.
Ah, on commence par moi. Bah, écoutez, moi, je me suis largement exprimé sur la situation.
Mais c'est l'aboutissement d'un combat. Vous obtenez la reconnaissance, ce que vous dénonciez depuis de très nombreuses années.
Alors, l'aboutissement, c'est le rapport sauvé, c'est pas la honte du pape. Le pape, il faut qu'il arrête d'avoir honte et puis il faut qu'il passe à l'action. Là, ça fait longtemps qu'on a honte, quand même.
Père Hugues de Voilemont, de la Conférence des évêques de France, là aussi, votre patron, j'allais dire, a exprimé sa honte. C'était d'ailleurs quasiment au même moment que le pape François.
Oui, on ressent évidemment, après la réception de ce rapport que l'Église de France a demandé, une immense consternation. Le rapport de la Commission est accablant pour l'Église. Qui n'a pas su protéger les personnes victimes et qui n'a pas su gérer et dénoncer les auteurs.
Astrid Kapten, vous étiez donc membre de cette commission appelée CIAS. Au fur et à mesure des investigations, vous êtes tombée de la chaise, on va dire?
Oui, on s'est étonné bien évidemment de ces chiffres énormes, ça c'est sûr. On les connaissait depuis un peu plus longtemps. Ce sont des estimations. Il faut aussi garder en tête qu'ils se basent ces chiffres sur des sources différentes et que les catégories de personnes concernées ne sont pas les mêmes non plus. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai vu beaucoup de réactions dans la presse où on fait le calcul combien de victimes par prêtre agresseur. Et dans ce cas, bien évidemment, on arrive à des chiffres énormes. Donc, il faudrait peut-être relativiser un tout petit peu.
Voilà. En tout cas, ce travail a été réalisé à partir d'appels à témoignages durant 17 mois, 6500 appels, contacts de victimes ou proches, et puis un travail de recherche dans les archives des diocèses et institutions religieuses. Là aussi, Christine Pedotti, donc de la revue Témoignages Chrétiens, quelle a été votre première réaction quand vous avez connu l'ampleur de cette catastrophe?
Alors, sur l'ampleur, proprement abasourdie, vraiment, et parce que, en fait, vous dites c'est l'épiscopat qui a commandité cette commission, mais de fait, Témoignage Chrétien l'a réclamé sous la forme d'abord d'une commission d'enquête parlementaire, parce que pendant l'automne 2018, les évêques nous disaient, il y a 30 ou 40 cas de prédateurs connus, et on s'en occupe et on fait tout. Et nous, on a dit, mais on voudrait quand même bien qu'il y ait une commission qui fasse la vérité. Maintenant, nous sommes face à la vérité, et elle est terrible.
Beaucoup a été dit. Je voudrais donc qu'on vous entende sur plusieurs informations contenues dans le rapport Sauvé, des informations précises. Tout d'abord, le fait que les victimes sont davantage des petits garçons que des petites filles. Comment expliquer cela, Astrid Kapteyn?
Ben, c'est certainement en lien avec le fait que nous avons dans l'Église catholique une culture qui est à dominante masculine. La formation des prêtres avec les petits séminaires, les grands séminaires, ça induit bien évidemment, ça rend facile l'abus des jeunes garçons.
Vous avez des commentaires les uns les autres, puisque je rappelle, écoutez, vous êtes au téléphone, donc c'est difficile pour moi de savoir qui veut prendre la parole et expliquer.
Christine Pedotti, je voudrais dire une chose, c'est que c'est un des grands mystères que le rapport Sauvé, qui est pourtant remarquable, admirablement fait, etc., n'élucide pas totalement. Et en fait, ce chiffre de 80% de garçons entre 11 et 13 ans est totalement cohérent avec ce que les autres grandes commissions qui ont enquêté sur les pédocriminalités dans l'Église, aussi bien au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne, etc., montrent cette chose qui est très étonnante, alors que dans le reste de la société, on est plutôt dans une proportion 75% de filles, 25% de garçons. Dans l'Église, on est à 80% de garçons, 20% de filles.
François Deveau, la parole des victimes de violences sexuelles de la part de prêtres et de religieux, vous en avez fait largement état. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette proportion entre petits garçons et petites filles abusées?
Moi, j'y vois une singularité évidente qui nous invite effectivement à aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la problématique. Effectivement, oui. C'est sans doute les points qui seront levés dans les prochaines commissions que devront probablement porter des pays comme l'Espagne ou l'Italie.
Autre proportion, plus de la moitié de ces violences ont été commises dans les années 1950 à 1969. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait de plus à l'époque dans l'Église qu'aujourd'hui, Père Hugues de Voilemont?
Je pensais aussi une époque où beaucoup de jeunes fréquentent l'Église, où il y a aussi un plus grand nombre de prêtres. Tout à l'heure, on parlait de pourquoi des garçons. C'est vrai qu'il y a la question des petits séminaires et puis des écoles aussi, où la non-mixité faisait que peut-être que voilà les prêtres fréquentant des enfants davantage abusés d'eux. Je souligne que nous sommes aussi dans cette phase de réception de ce rapport. Nous l'avons reçu mardi, il y a une synthèse d'une cinquantaine de pages, et le rapport fait 300 pages avec des annexes. Donc beaucoup peut-être de questions ce soir. En tout cas, nous sommes vraiment à ce temps d'abord du silence, de la pénitence et du temps de la réception. Bien évidemment, ce rapport invite à des réponses et à des résolutions encore plus déterminé, mais il y a besoin de prendre ce temps de lire et de travailler ce que dit ce rapport.
Combien de victimes, on citait des chiffres tout à l'heure, combien de pédocriminels maintenant dans l'Église catholique? Quel est le fruit de vos investigations au sein de la commission Sauvé, Astrid Kapteyn?
Ben, vous avez certainement vu le chiffre d'une estimation d'environ 3000 agresseurs. Et là, on prend en compte uniquement les clercs et les religieux de sexe masculin. Ça, c'est un chiffre qui est basé effectivement sur les archives ecclésiastiques et les archives de l'État. On sait très bien que ces archives ne sont pas complètes. Tout n'est pas forcément documenté dans ces archives. Donc, il est probable que le chiffre soit encore plus élevé en réalité.
Beaucoup de ces prédateurs, de ces pédocriminels sont morts. Une petite dizaine est en prison, Christine Pedotti. C'est très peu au regard du volume de ces exactions.
Oui, parce que finalement, ce que le rapport Sauvé montre dans cette espèce de vague, de tsunami, c'est que aussi, si on y lit attentivement, on lit que 40% des victimes ont parlé. Elles ont parlé, en fait, à leurs proches, à leurs familles. Et ça veut dire que les familles n'ont pas réussi à croire une chose si abominable. Et ça veut dire aussi que finalement, le poids du silence, le poids de l'autorité du prêtre, le fait qu'il est réputé ne pas avoir de sexualité, a comme conséquence que la parole des enfants, elle est impossible et elle n'est pas crue, même par leurs parents.
Quelles peuvent être les suites judiciaires maintenant, puisque dans la majorité des cas, les faits dénoncés par les victimes sont prescrits, on le disait, années 50-69, or dans le cadre des viols sur mineurs, la prescription est de 30 ans, au-delà de la majorité, soit aux 48 ans de la victime. Or ce sont des gens qui aujourd'hui sont bien plus âgés que cela. François Deveau, quelles suites judiciaires ?
Ben, je crois que le garde des Sceaux vient de répondre à cette question. C'est qu'il faut aller beaucoup plus loin dans la compréhension de la problématique et il faut que, effectivement, la République prenne ses responsabilités et aille jusqu'au bout de la compréhension de l'ampleur du phénomène.
Est-ce que vous pensez que tout cela, même si vous le disiez tout à l'heure, Père Hugues de Voilemont, elle doit être encore détaillée, analysée, commentée. Est-ce que cela risque de détourner les croyants de l'Église catholique, les nouveaux arrivants, si je puis dire?
Bon, regardez, donc je réponds, en tout cas, c'est vrai que ce rapport était demandé par l'Église, par les évêques et les religieux et les religieuses de France. Donc ce rapport, il a été demandé pour faire la lumière, de ce qui s'est passé, de la manière dont l'Église a géré ces drames, et de faire des préconisations. Peut-être, je comprends ce soir que certains peuvent être en effet avoir la tentation de quitter l'Église. C'est sans doute à l'Église de mériter et de montrer que aujourd'hui l'Église devient une maison sûre.
Qu'avez-vous fait de Jésus? C'est le titre de votre ouvrage, Christine Pedotti. Ça fait allusion à cela?
Oui, bien sûr, parce que finalement, le travail de l'Église, c'est de porter une parole sûre et fiable, qui est la parole de Dieu elle-même. Si l'Église fait pas ça, elle sert à rien. Donc, en fait, quand en fait sa parole devient plus crédible, parce que on est passé dans le stade du mensonge, de la dissimulation, de l'à peu près. Moi, je suis obligée de dire que, par exemple, sur ce plateau, j'entends une parole qui n'est pas vraie, qui est de dire c'est l'Église qui a voulu cette commission. L'Église a été acculée à faire cette commission. Donc en fait, là déjà, on détourne la parole. Alors, je veux dire, je ne vais pas en prendre complètement ombrage, mais faire la vérité, c'est un énorme travail, parce que si on ne fait pas la vérité, on ne fera plus dans l'Église le travail qui doit être fait, qui est de dire une parole de bonté, de réconciliation, de paix et de justice, qui est une parole qui vient de Dieu lui-même.
Je pense que vraiment, ce soir, et pour respect des personnes victimes, les premières, tant mieux si l'Église a été aussi encouragée à d'autres à le faire. En tout cas, aujourd'hui, je crois qu'on peut reconnaître, et cela a été fait aussi par des instances publiques dans notre pays, tant mieux si ce rapport a été commandé. Si l'Église l'a fait sous la pression de personnes, eh bien, tant mieux aussi. Et voilà, je crois qu'aujourd'hui, il faut accueillir ce rapport et reconnaître le travail remarquable qu'a fait Sauvé et les attentes qui naissent de ce rapport.
Vous écoutez le débat du jour sur Radio France Internationale.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
Comment l'Église doit-elle assumer ses responsabilités ? Le problème subsiste, déclarait mardi Jean-Marc Sauvé lorsqu'il a présenté son rapport qui annonce 22 saisines de justice pour des faits non prescrits. Et maintenant, que faire dans la mesure où il n'y aura pas de comité de suivi après les travaux donc de la CIAZ ? Alors ce rapport émet 45 recommandations, on ne va pas toutes les lister, mais je voudrais qu'on s'arrête sur 2-3 thèmes. À commencer par la reconnaissance de la responsabilité de l'Église avec la création d'une institution indépendante mise en place par l'Église. Qu'est-ce qu'elle devrait faire ? Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre de Voilemont ? Qu'est-ce qu'elle doit faire, cette institution indépendante ?
Alors vous avez parlé du suivi de cette du rapport. rapport de la commission. C'est un sujet que les évêques vont évoquer, vont parler à leur prochaine assemblée plénière au mois de novembre, comme les religieux et les religieuses qui vont aussi tenir leur assemblée, puisque ce rapport avait été demandé par ces deux conférences. La question d'une instance qui pourrait indépendante, qui pourrait regarder ce que l'Église fait de ce rapport, est à l'ordre du jour.
Astrid Capen, professeur de droit canonique à l'université de Fribourg en Suisse et donc membre de cette commission, comment vous l'envisagez? Est-ce qu'elle peut être objective? Est-ce qu'on peut être indépendant et en même temps être mis en place par l'Église?
Bien évidemment, notre président Jean-Marc Sauvé l'a souligné à plusieurs reprises quand le caractère indépendant de la commission était critiqué, en disant c'est la même chose dans l'État. Dans la justice étatique, les personnes sont nommées par l'État, il y a un budget étatique qui est mis à leur disposition et pourtant personne ne doute du caractère indépendant de la justice de l'État.
François Deveau, donc, qui aviez fondé l'association La Parole Libérée, vous pensez que c'est une bonne chose que l'introspection continue?
Ah ben oui, je pense qu'il faut aller au bout de la compréhension de cette problématique. À partir du moment où l'Église entreprend une œuvre de mort, on n'a pas d'autre choix que d'aller comprendre cette problématique comme on l'a fait à chaque fois dans l'humanité.
En tout cas, la Commission juge cette option préférable à un allongement des délais de prescription qui ne peut engendrer que des douleurs pour les victimes, disait l'autre jour Jean-Marc Sauvé. Modifier, allonger le délai de prescription, est-ce que ça vous semble malgré tout utile, François Deveau?
Non, je suis assez proche de la position, en tout cas de Jean-Marc Sauvé. J'étais pas personnellement pour forcément l'allongement du délai de prescription. J'étais plutôt pour le fait de travailler sur la notion de la vulnérabilité de la victime, qui permettait par ce biais-là d'effectivement rallonger le délai de prescription. Mais là, on n'est plus tellement dans cette situation-là. Là, on est dans un crime de masse. Donc la situation est un petit peu différente. Un crime de masse d'ordre systémique et dont on commence à comprendre un peu les origines. Donc c'est effectivement en marge de ce qu'on connaît de l'appareil judiciaire et son fonctionnement principal.
En tout état de cause, quand Jean-Marc Sauvé dit que le problème subsiste, il y a effectivement ce qui a été fait dans les années 50, 60, 70, mais ça continue ou ça continuerait aujourd'hui, d'où 22 saisines de la justice pour des faits non prescrits, c'est-à-dire que la commission Astrid Capen a dénoncé un certain nombre de prélats dont elle a eu connaissance des agissements lors de son enquête.
Ben, je suis pas sûre qu'il s'agisse de prélats, mais de prêtres qui ont commis ces actes d'abus sexuels. Là, en effet, bien évidemment, du moment que c'est pas prescrit, on est obligé de dénoncer ça aux autorités compétentes.
Christine Pedotti, certains de ces faits continuent, mais on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'il faudra continuer à être à très attentif. Est-ce que vous pensez que les langues se délieront un peu plus désormais?
Alors, ce que dit François Deveau en employant ces mots terribles de crime de masse, mais c'est vrai. C'est-à-dire que on ne va pas pouvoir continuer à nous dire que, promis juré, on va faire plus attention. Parce que dans les années 2000, moi j'ai entendu les évêques, après l'affaire Piquant, nous dire on va faire très attention, ça n'arrivera plus, etc. Le rapport Sauvé met le doigt sur ce qu'il appelle des défauts systémiques. Et bien, il ne souligne pas les défaillances ici ou là. Il est en système qui est totalement défaillant. C'est le système en lui-même qui est défaillant. Et ça, si les évêques ne sont pas capables de se dire il va falloir changer radicalement des choses dans notre façon de faire vivre, de regarder qui nous sommes, qui sont les prêtres, etc., on n'arrivera à rien.
La réforme du droit canonique, tout à l'heure, vous y faisiez allusion tout à l'heure, hein, Père Hugues de Voilmaux, elle se réunit donc le 8 décembre prochain. Les agressions sexuelles passeront de la catégorie des offenses à la chasteté à la catégorie des atteintes à la vie et à la dignité des personnes. Est-ce que ça peut suffire ?
Non, certainement pas. C'est un des aspects, un des sujets des nombreuses recommandations d'ailleurs que fait Jean-Marc Souvé. Je reviens simplement sur le sujet précédent. Moi, pour voir les évêques, ils sont déterminés aujourd'hui et les règles sont connues. Lorsque un fait d'abus sur un mineur est signalé, nous le partageons immédiatement au procureur. Voilà, il y a des choses qui aujourd'hui sont mises en place et alors, on parle des évêques, mais c'est aussi la formation des différents éducateurs. Toute personne qui est engagée dans l'éducation de mineurs, aujourd'hui, est invitée à, dans un grand nombre de lieux, à suivre des formations, à faire de la prévention. Voilà, c'est la question de la prévention qui est nécessaire et aujourd'hui très engagée.
Autre chose pour les victimes qui se comptent donc par centaines de milliers, que faut-il faire? La CIAZ, donc la commission, plaide en faveur d'une indemnisation des victimes. Mais combien et est-ce que le traumatisme est chiffrable, François Deveau?
Bah oui, bien sûr qu'il est chiffrable. À partir du moment où on a identifié le nombre de victimes, si on parle sur le faible chiffre de 330 000, on écarte toutes les victimes indirectes. C'est-à-dire, je sais pas, si vous êtes parent, si vous avez un fils qui s'est suicidé, bon, bah, vous avez quand même un petit préjudice, quand même, à faire valoir. Mais bon, si on écarte tout ça, 330 000, si on consacre un budget, moi, je peux vous dire que la justice républicaine m'a octroyé 10 000 euros, que je ne toucherai pas, hein, par rapport au préjudice de Prena, plus 4 000 euros d'article 700 pour remboursement des frais de justice. Bon, considérons uniquement les 10 000 euros. 10 000 euros à 330 000, ça fait 3 300 000. On n'a pas compté encore les victimes indirectes. Donc oui, effectivement, ça fait une masse financière qui est conséquente.
Ça paraît complexe donc d'indemniser des victimes, mon père, dans la mesure où vous ne pouvez pas utiliser non plus les dons des fidèles à des fins que ceux qui n'ont pas été choisis par eux.
Les évêques, la dernière assemblée plénière, ont dit qu'ils verseraient à toute personne victime qui se manifestera une contribution financière. Il y a pour cela un fonds de dotation qui peut recevoir l'argent et surtout ce qui est très important, c'est qu'on a mis en place une instance nationale indépendante qui, présidée par quelqu'un comme pour la commission Sauvé, qui constituera elle-même son équipe, et cette commission indépendante, c'est elle qui recevra les personnes des demandes victimes et qui évaluera la contribution financière qu'il faudra lui donner.
Alors, entre les victimes... Oui, allez-y.
Oui, c'est bien que dans toutes ces commissions, ces cellules, ces commissions Chisnard et compagnie, ce serait bien qu'on ait un petit rapport d'activité et puis un petit prévisionnel des projets à venir. C'est ce qu'on a demandé déjà en 2017. Il faut que les lignes soient transparentes.
Oui, je suis complètement d'accord. Ces dernières années, il y a d'ailleurs chaque année donc un rapport annuel de la conférence des évêques sur la lutte contre la pédophilie.
Je voudrais qu'on aborde deux questions parmi les choses qui permettraient peut-être de changer la situation. Est-ce qu'il faut changer le secret de la confession, considéré par beaucoup dans l'Église comme une sorte de secret professionnel? Tout d'abord vous, Astrid Kapten.
Ben, le secret de la confession est très important pour l'Église et pour les personnes qui viennent se confesser. Donc je pense qu'il y a des éléments qu'il faut garder, qu'il faut sauvegarder dans ce sens-là. En même temps, on a cette obligation qui vient du droit français qu'il faut dénoncer des faits, notamment quand ils ont été commis sur des personnes mineures. C'est un peu la quadrature du cercle. On peut difficilement honorer les deux aspects en même temps. Cependant, c'est un conflit de valeurs et je pense qu'il faut quand même essayer de voir quelle est la valeur la plus importante parmi les deux. Donc d'un côté, on a avec le secret une protection de la personne et de sa réputation. De l'autre côté, on a cette valeur d'une protection de la vie humaine et de l'intégrité physique et psychique de la personne. Ce sont deux valeurs très importantes, fondamentales, et il faudrait voir comment on peut faire pour donner la priorité à la dernière. Moi, je m'interroge beaucoup, j'ai pas de solution toute faite, mais je pense que ça mérite beaucoup d'approfondissement et d'examen encore.
Votre opinion sur cette quadrature du cercle, Christine Pedotti?
Il me semble que dans cette affaire de secret de la confession, on est face à une sorte de rempart, on voit bien comment ça diffuse en ce moment dans les médias, qui est une forme d'extéritorialité de l'Église, et que ça, c'est choquant pour beaucoup de gens. La question du secret professionnel, c'est partagé par d'autres professionnels, et en fait, c'est résolu autant qu'il est possible, non pas avec un pauvre prêtre qui se retrouve avec un aveu dont il ne saurait pas quoi faire, etc., mais peut-être que ça doit se résoudre dans une forme de collégialité, de synodalité, c'est-à-dire qu'en fait, quand on reçoit en confession une chose aussi abominable, terrible, etc., ben c'est peut-être bien, quand on est prêtre, de ne pas se retrouver tout seul pour prendre ce genre de décision. Ça pourrait être une issue.
Oui, je consonne à cela. La confession peut être aussi un lieu premier d'une parole qui est donnée, un enfant qui va dans ce lieu-là, parce que c'est peut-être aussi un lieu protégé qu'il va dire ce qu'il a subi. Je crois que c'est vraiment tout le tact aussi du prêtre de pouvoir lui expliquer que à la sortie de la confession, est-ce qu'il accepte que l'enfant puisse en reparler et donner des suites immédiates à ce qu'il a confessé dans ce lieu-là.
On parle donc d'agression.
D'autant que, oui, je rappelle quand même une chose, c'est que si un enfant confesse qu'il a été violé, c'est pas un péché.
Ben non.
Absolument. On parle d'agression sexuelle alors que les prêtres sont tenus au célibat et donc à une forme d'abstinence sexuelle. Est-ce qu'il faut autoriser le mariage des prêtres? Est-ce que ça peut être une alternative, Père Hugues de Voilemont?
En tout cas, je me garderais bien de faire un lien entre pédophilie ou pédocriminalité et célibat ou mariage. Ce serait une insulte aux
personnes célibataires. Peut-être une agression liée à une frustration.
Alors après que, donc il n'y a clairement pas de lien et le rapport Sauvé ne pose pas d'ailleurs cette question. Le rapport Sauvé ne pose pas cette question du mariage des prêtres, mais de fait, c'est une question sur la question de la sexualité, la manière dont on vit avec la sexualité, ça c'est sûr quand on est célibataire. C'est un sujet.
François Deveau ?
Non, je trouve qu'on annonce une science là qui n'est complètement incertaine. Et jusque-là, les études des chercheurs mettent un petit peu en doute cette certitude-là. Donc il faut garder raison sur ce qu'on dit et faire attention de ne pas afficher les choses sous l'angle scientifique. Pour l'instant, ce qui s'avère être vrai, c'est plutôt l'inverse de ce que vient d'être dit.
Christine Pedotti.
Moi, il me semble que l'un des problèmes, c'est que la figure du prêtre, elle est très surévaluée dans les témoignages des victimes. C'est qu'en fait, les victimes disent le prêtre, il était comme Dieu. Il se trouve qu'il est aussi un peu comme un ange, puisqu'il est réputé ne pas avoir de sexualité. Et donc, du coup, c'est difficile pour l'enfant de se protéger d'une sexualité adulte agressive et prédatrice quand, en fait, on lui explique que le prêtre, il vit sans sexe. Donc, vous voyez, c'est pas direct le lien entre le célibat et évidemment, c'est pas le lien qui serait, il y a de la frustration, alors il se jette sur les enfants. Est absurde.
En quelques mots, puisque le temps nous manque, Astrid Capitaine, sur cette question, est-ce que le mariage des prêtres pourrait être une alternative, une solution?
Non, une solution, je ne crois pas non plus. Non, parce que, tout simplement, selon notre commission, le célibat n'est pas la cause des phénomènes qu'on a étudiés. Donc, il faudra certainement beaucoup d'autres choses. Ce qui est évoqué par Mme Pedotti, ça concerne plutôt, par exemple, le cléricalisme dans l'Église qu'il faudrait essayer de changer. Il y a certains éléments dans la culture juridique, dans la théologie. Donc, il y a d'autres éléments qu'il faut... abordé en premier lieu.
Et on aura certainement l'occasion d'en reparler sur Radio France Internationale. Merci à vous tous pour ces commentaires, ces analyses et vos paroles. Le débat du jour était réalisé par Laurent Philippot. Ce soir, vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale.